Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment évolue le paiement digital en Afrique et quelles contributions pour les opérateurs marocains? Nous en parlons au cours de cette émission. Ce sera dans les échos de la semaine. Par la suite, dans le Zoom Express, nous verrons comment les entreprises des différentes régions marocaines peuvent tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF. Plus de 2 ans après son lancement, cette initiative continentale se met progressivement en place, mais très lentement. Pour accélérer le rythme, certaines voix appellent à prioriser des ZELECAF régionales. De quoi s'agit-il? Vous aurez la réponse dans quelques instants. Et puis, notre destination éco nous mène au Niger. Le Niger, sous le coup des sanctions de la CEDEAO, des sanctions qui commencent à se faire sentir et qui provoquent une manifestation des femmes à Niamey. C'est ce que nous dira notre correspondant sur place, Jean Djibril William. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Casablanca a abrité mercredi dernier la 8e édition du Digital Payment Africa Forum. C'était l'occasion de mettre en avant la contribution des opérateurs marocains dans la fourniture de solutions de paiement digital dans certains pays du continent. On écoute à ce propos Omar Magoul, organisateur de ce forum.
Le Maroc est leader dans le domaine de la monnaie physique parce qu'on a pratiquement des entreprises qui sont présentes dans une centaine de pays. Et pratiquement la plupart des solutions qui sont commercialisées en bonne partie dans les pays d'Afrique sont issues de la technologie marocaine et des entreprises marocaines. Et c'est dans ce sens-là que nous organisons ce forum avec, bien sûr, le secteur de la monétique, le système bancaire, les sociétés de crédit et les établissements de paiement. Dans ce forum, donc, on a abordé première des choses, la liaison entre, disons, le digital payment et l'inclusion financière via les politiques publiques. Quel est le bilan, quelles sont les perspectives? En deuxième lieu, donc, nous sommes en train d'aborder les innovations. C'est un domaine qui évolue d'une manière très, très rapide et les innovations sont très importantes. Et puis, pour, à la fin, se consacrer à un aspect qui intéresse directement les consommateurs, à savoir l'expérience client. L'expérience client, c'est-à-dire quel est le rendu, quelles sont les best practices dans le domaine de la généralisation, qui est un objectif du paiement électronique.
Zoom Express.
Plus de 2 ans après son lancement, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF, se met progressivement en place, mais à un rythme jugé encore très lent pour accélérer la cadence. Certaines voix appellent à prioriser des ZELECAF régionales. C'est le cas de l'économiste et homme des médias marocains, Hassan Alaoui, que je vous propose d'écouter.
Par rapport à la ZELECAF, je pense que ce n'est pas pour demain. C'est pas pour demain pour la simple raison que c'est un énorme marché. C'est 54 pays. Comment harmoniser les statuts juridiques, fiscaux, réglementaires de 54 pays dont la plupart n'ont pas les moyens de le faire, hein. Imaginez-vous juste ce que le Maroc a fait avec l'Union européenne. Ça nous a pris 17 ans pour mettre à niveau notre économie pour pouvoir accéder à l'Union européenne en 2010. 17 ans de travail. Alors imaginez 54 pays. Donc c'est pour ça que j'ai proposé de réfléchir à un concept régional. Aujourd'hui, vous avez la zone CEMAC, vous avez la CEDEAO, Okay. Vous avez des zones régionales par rapport à des périmètres économiques qui sont très avancés en matière financière, en matière de devises et de monnaie, et qui pourraient constituer des périmètres de développement ZLECAF régional, hein, et qui encourageraient les choses à aller plus vite. Parce que si on prend la ZLECAF comme un grand projet de 54 pays, on va peut-être être un marché commun dans 50 ans.
Et dans ce contexte, comment les entreprises des différentes régions marocaines peuvent tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine? Écoutons le point de vue de Hassan Alaoui, directeur de publication du magazine Économie Entreprise.
J'ai appris, j'ai compris qu'il n'y avait pas de formule magique dans sa capacité de s'internationaliser et que chacun y allait par sa propre initiative. Il y en a qui attendent des initiatives royales pour partir et profiter de toute cette dynamique, hein, et de cette aura. Hein. Il y en a qui disent, je vais prendre un billet d'avion, j'ai un ami à Kinshasa qui peut me présenter des gens là-bas et je vais aller chercher. Il y en a qui vont et qui participent à des conférences économiques et dans ces conférences, ils rencontrent des partenaires. Donc chacun y va à sa manière, il n'y a pas de formule magique. Donc le conseil, ayant mis les pieds en Afrique depuis 22 ans, mon conseil, c'est qu'il faut y aller. Les opportunités sont là, c'est un marché très dynamique, très transparent malgré tout ce qui se dit, et qui offre des opportunités illimitées, surtout pour un pays comme le Maroc, qui est très en avance par rapport à beaucoup de pays africains, dont le chef de l'État est très respecté et vu comme une sommité africaine, hein, et dont le modèle de développement intéresse et aspire.
Coémergence, l'invité.
On s'intéresse aux salariés marocains installés en Afrique subsaharienne. Dans quel type d'entreprise les emploie-t-on et surtout dans quel secteur? Mais nous verrons également s'il est vraiment plaisant pour un Marocain de s'installer au sud du Sahara pour le travail. Essayons d'en savoir plus avec Ali Serhani. Il est le directeur général associé du cabinet RH J'espère Service. Nous prenons donc la direction de Casablanca où nous retrouvons Ali Serhani. Bonjour à vous Ali Serhani et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour mon cher Omar, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi.
Alors tout d'abord Ali Serhani, ma première question, vous êtes un spécialiste du recrutement, donc des RH. Observez-vous sincèrement une dynamique d'installation de salariés marocains en Afrique subsaharienne?
Ben, effectivement, il y a une très très grande dynamique depuis quelques années. Beaucoup de Marocains veulent s'expatrier en Afrique subsaharienne et bien plus, même en Afrique australe. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, surtout que beaucoup de multinationales actuellement voudraient avoir des ressortissants d'Afrique qui puissent s'installer dans ces pays-là, en Afrique subsaharienne ou en Afrique australe. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un changement de mentalité. Il y a longtemps, beaucoup de Marocains hésitaient à partir, s'installer en Afrique subsaharienne ou en Afrique australe ou en Afrique du Sud. Pour différentes raisons, dues à une mentalité qui peut-être est une mentalité qui voulait dire « Bon, moi, si je dois m'expatrier, je dois m'expatrier soit au Moyen-Orient, soit en Europe, etc. » Alors aujourd'hui, non, ils sont open, non pas uniquement pour ce qu'ils vont gagner, mais également pour cette expérience qui est unique. Installer des choses, apprendre, parce que quand on va dans ces pays-là, dans nos pays d'Afrique subsaharienne, les gens se trompaient il y a longtemps, ils se disaient « Bon, ils y allaient en tant que conquérants ». Non, ce n'est plus le cas. On apprend de beaucoup de choses et beaucoup de cultures, et ça est une chose importante. Donc une très grande dynamique. Aujourd'hui, quand nous proposons des postes, par exemple en Afrique subsaharienne, même dans des pays qui, à longtemps, n'étaient pas des pays qui sont, je dirais, des pays qui attirent les gens, ben aujourd'hui, non. Les gens vous disent, cette expérience professionnelle, je vous la voudrais, surtout en Afrique. Et vu l'installation de beaucoup d'entreprises marocaines, c'est ce qui arrange la donne. Mais c'est surtout les multinationales qui demande à avoir beaucoup de ressortissants d'Afrique pour des pays africains.
On voit donc les choses évoluent. Je présenterai nos excuses à nos auditeurs sur le fond sonore. On sent qu'Ali bouge énormément et c'est le cas actuellement, mais il a tenu à être avec nous. Alors, vous parliez des entreprises en dehors des multinationales. Quel type d'entreprise marocaine et dans quel secteur ces Marocains du continent sont recrutés? À ce propos, je rappelle juste que la première communauté marocaine ou la plus ancienne communauté marocaine à être établie à l'étranger, donc, est celle installée au Sénégal. Mais Ali Serhani, parlez-nous donc de ces entreprises et types d'entreprises qui recrutent les Marocains installés dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Alors, quel type d'entreprise, comme je l'ai dit lors de ma première question, c'est surtout les multinationales et bien sûr les entreprises marocaines. Des entreprises marocaines, je dirais institutionnelles, dans le secteur minier, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'immobilier, également dans l'agroalimentaire. Concernant les multinationales, pratiquement tous les secteurs. Si on peut trouver des Marocains, par exemple, qui iront travailler dans des filiales de multinationales un peu partout, il suffit de mettre le prix, je ne vous le cache pas, parce que de très bons profils marocains existent, et les gens y vont. Mieux que cela, les gens y vont en famille. Il y a longtemps, non. Il y a longtemps, ils y allaient tout seuls, et venaient une fois par mois, voir leur famille, etc. Non, maintenant, les gens veulent s'expatrier, et je risque de vous étonner, beaucoup de gens me disent que nous avons perdu beaucoup de valeurs au Maroc que l'on retrouve en Afrique subsaharienne ou en Afrique australe. Ça, c'est une donne extraordinaire.
En tout cas, ce sont des indicateurs importants que vous venez de donner là. Mais selon vous, Ali Serhani, je rappelle que vous êtes le directeur associé du cabinet RH J'espère Service, basé donc à Casablanca. Alors, selon les retours d'expérience que vous avez, comment se sentent ces salariés marocains installés en Afrique subsaharienne?
Alors, comment les Marocains se sentent dans les pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Sud, d'Afrique australe, je dirais d'Afrique de l'Est? Ben, écoutez, les retours sont très, 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 très positifs pour la simple raison. Bon, tout d'abord, les entreprises qui recrutent ces Marocains, qu'elles soient multinationales ou qu'elles soient marocaines, prennent en considération le bien-être de ces gens-là. Alors, l'installation se passe très très bien, mais le contact avec les gens est fantastique. Les retours sont tellement fantastiques qu'aujourd'hui, dès que l'on prononce expatriation dans n'importe quel pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Est ou d'Afrique australe, plus personne ne dit non. Hein. Il y a longtemps, on posait 36 000 conditions. Non, les gens viennent, posent des questions, bien sûr. Posent des conditions, mais des conditions qui tiennent la route. Ce n'est plus comme avant. Mais les retours sont extraordinaires. Extraordinaires. Mention spéciale pour des pays avec qui nous avons une grande, grande histoire, comme le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Extraordinaire, je dirais oui, les retours sont très très positifs, très positifs.
Des retours donc positifs, alors cela dit, certainement avec ce que vous venez d'expliquer, il y en a qui auront envie aussi d'aller à l'aventure en tout cas. Que conseillez-vous justement à ces Marocains qui souhaitent s'installer en Afrique subsaharienne en tant que salariés ou entrepreneurs?
La première des choses, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, hommes ou femmes, n'y allez surtout pas en tant que conquérants. N'y allez surtout pas avec l'idée que comme quoi nous sommes meilleurs que les autres. Il faut y aller avec l'idée comme quoi nous devons bâtir cette relation très fondamentale, cette relation extraordinaire avec les pays d'Afrique, qui est notre continent, ces pays africains qui sont nos frères et nos sœurs, et ça, ce n'est pas de la diplomatie. Mais par contre, c'est de la diplomatie parce que vous êtes représentant de ce pays-là. Apportez un plus, faites le maximum, et je peux vous assurer que vous recevrez en retour ce qu'il y a de meilleur. Deuxième des choses, apprendre de ces gens-là. Ce que vous pourrez apprendre au niveau culturel, dans tous ces pays-là, que vous allez au Sénégal, que vous allez en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Tchad, au Mali, au Kenya, en Tanzanie, en Zambie, là où vous allez, et même en Mozambique, pays très loin, qui est pratiquement limitrophe, qui est limitrophe de l'Afrique du Sud, même en Madagascar, Croyez-moi, vous pourrez apporter un plus aux relations extraordinaires qui peuvent lier notre pays à tous les pays africains. Ça, c'est une chose fondamentale. Autre chose, bien se renseigner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller là-bas, qui vont se dire, bon voilà, un tel m'a dit, une telle m'a dit. Non, les retours sont bons, les retours sont extraordinaires de la plupart des Marocains qui sont installés dans n'importe quel pays en Afrique, dans notre continent africain, mais essayer d'avoir l'information qu'il faut. Et en plus de cela, connaître la culture du pays, connaître la culture du pays. Nous avons tendance à y aller en lisant quelque chose comme sur Google, ou bien Yahoo, ou bien je ne sais quel autre moteur de recherche. Non, s'imprégner un petit peu de la culture de ces pays-là, comprendre ces pays-là, et il faut y aller tout en sachant comme si vous allez étudier un business plan d'une entreprise, ou bien avoir une idée sur une entreprise si vous êtes un très bon commercial. Ben écoutez, si vous allez dans ces pays-là, connaître la culture. Et quand vous irez là-bas, vous savez, je vais clore avec un superbe adage ou bien proverbe de M. Mandela qui disait à propos des langues, si tu parles à une personne une langue qu'il comprend, tu parles à sa tête. Mais si tu lui parles sa langue, tu parles à son cœur. Alors tenez-vous bien, sa langue peut être sa culture, peut être sa connaissance de sa culture, sa connaissance de son pays. Cette appropriation au sens très positif du terme de la culture de l'autre fera en sorte que vous vous installerez très très bien. Et par là, si vous êtes installé dans un pays africain, n'oubliez pas que nous sommes dans un continent. Si vous êtes bien dans un pays, c'est comme vous étiez bien dans tous les autres pays, malgré les différences de langue et les différences de culture. Voilà ce que je pourrais dire.
Merci à vous, Ali Serhani, pour ces conseils extrêmement édifiant et précieux. Je rappelle que vous êtes le directeur général associé du cabinet RH J'espère Service basé à Casablanca. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous dans Coémergence.
Merci mon cher Omar, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous apporter les réponses à quelques questions. J'espère que ces réponses pourront convaincre, donner une idée sur notre relation avec notre très 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 cher continent qui est l'Afrique.
Destination Éco.
Notre destination Éco nous mène au Niger. Le Niger, sous le coup des sanctions de la CEDEAO, un embargo qui commence à se faire sentir et qui provoque une manifestation des femmes à Niamey, des femmes qui appellent à lever ces sanctions. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Jean-Djibril William.
Elles sont venues par centaines répondre à l'appel du mouvement des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Devant le bâtiment abritant la représentation de la CEDEAO au Niger, ces étudiantes, fonctionnaires et femmes au foyer sont venues dénoncer les sanctions infligées au Niger au lendemain du coup d'État du 26 juillet. Si nous sommes venus ici, c'est pour demander en tant que femme et en tant que mère de famille à la CEDEAO de lever son embargo sur le Niger. Nous ne sommes entourés que de pays frères, et ces sanctions ne font que punir injustement les populations d'ici et même des pays voisins, parce que c'est toute la région qui en pâtit. Ces sanctions sont injustes car elles touchent tous les secteurs sociaux de base. Les hôpitaux se retrouvent sans électricité, en plus de la pénurie de médicaments. Les élèves n'ont pas de fourniture scolaire pour la rentrée et même les fonctionnaires ne reçoivent plus leur salaire. C'est la population qui souffre le plus de cet embargo. Et c'est cela que nous dénonçons aujourd'hui. Des sanctions jugées injustes, mais surtout inutiles par ces femmes venues des huit régions du pays et dont le sit-in a été l'occasion d'inviter l'instance régionale à privilégier le dialogue au profit des populations de la communauté.
Ces sanctions injustes n'affligent pas seulement les Nigériens, mais ont un impact négatif direct sur les activités des innocentes populations des pays de notre espace communautaire. Des pays voisins avec des relations historiques séculaires doivent pouvoir se parler, considérer l'intérêt des peuples et ne pas cautionner une vision dictée de contrées lointaines pour des intérêts mesquins sans lien avec les populations de notre espace.
Cette manifestation a par ailleurs été l'occasion d'appeler à la mise en œuvre d'une organisation trilatérale entre femmes du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un front commun de soutien à l'Alliance des États du Sahel, créé en septembre dernier par leurs autorités respectives.
Merci à vous, Jean-Djibril William, correspondant de Médi 1 à Niamey, au Niger. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.